Radio Barque, la deuxième partie de ce 24e, avec notre invitée Hélène Sandranier, présidente du conseil départemental de l'Aude. On a longuement parlé, Madame Sandranier, de votre visite, alors vous et beaucoup d'autres Audois au Salon de Paris, avec cette fameuse star, la vache gasconne, et puis la façon dont les choses se passent. Bon, l'agriculture, donc, c'est pas, ça n'est plus à démontrer, c'est un des secteurs importants de notre département, de l'économie. Et quand on dit agriculture, ben, on s'aperçoit que ça n'est pas seulement de la vigne en arbonnée et du blé ou du soja en lauragais. On a effectivement des endroits où il y a des vaches, quoi.
Oui, des vaches. Oui, là, l'agriculture audoise
a une diversité qui peut surprendre.
Oui, oui, oui. Alors évidemment, sur le littoral, on passe au moins aux vaches.
Oui, c'est plus exotique.
Voilà, mais c'est une réalité et comme vous l'avez dit, des économies importantes sur lesquelles il faut s'appuyer et pouvoir notamment, vous voyez, nous dans notre restauration. Dans les collèges.
Dans les cantines, par exemple.
Voilà, oui. dans les cantines, là où nous développons justement une utilisation de produits de proximité, bio, quand on le peut, et aussi l'achat et bien sûr l'utilisation, la consommation de vaches locales.
On va puiser dans ce vivier local.
Oui, voilà. Dans ces élevages.
Et alors, par exemple, dans votre dernier édito de l'Aude Mag, du magazine, donc qui paraît dans toute l'Aude, vous soulignez ce côté important de l'agriculture et vous le rattachez également au côté alors la filière halieutique, ce qui veut dire en fait la pêche.
Hein,
en bon français simple. Pareil, c'est un peu plus localisé, évidemment, comme secteur, puisque c'est la mer, mais ça fait partie également d'une économie que vous cherchez et que vous réussissez à soutenir et à encourager.
Oui, oui.
Parce que là aussi, on a l'impression que ce sont des secteurs menacés, souvent.
Oui, ce sont des secteurs qui doivent se battre au niveau européen, hein, notamment pour parler
avec les quotas de pêche,
voilà,
par exemple.
Voilà, pour parler de la pêche. Et en fait, pendant des années, cette pêche et cette production littorale, cette économie littorale, n'était pas forcément dans les radars des politiques agricoles départementales. Bon, ça s'explique parce que la pêche n'est pas à la chambre d'agriculture, tout simplement, mais bon...
C'est vrai que c'est un monde qui a fait un peu un monde à part pendant très longtemps, qui était dans ses prud'homies.
Voilà, mais depuis deux ans, nous travaillons avec ce secteur. De la même façon, je viens de parler des élevages bovins, nous essayons aussi d'utiliser la pêche produite par nos pêcheurs du littoral pour aller alimenter notre restauration collective. C'est pas toujours facile, mais c'est une volonté politique. Quand je dis toujours facile, parce qu'il faut avoir les quantités au moment. En fait, il y a une structure un peu aléatoire qui est liée effectivement à la pêche. Mais bon, nous avons décidé de nous associer à la stratégie pêche du Languedoc-Roussillon. Et donc, nous travaillons ensemble. Et d'ailleurs, les pêcheurs et les conchiliculteurs également étaient au salon.
Ils faisaient partie
du voyage.
Voilà, ils ont été mobilisés.
Alors, c'est vrai
aussi que
ce sont des filières aussi, comme vous l'avez dit, qui sont malmenées effectivement par des quotas européens, et il faut que nous les aidions à résister à ses à ses volontés politiques
européennes. Donc maintenant,
européennes.
Vous, maintenant le département les prend en compte.
Tout
ils
à
sont
fait.
Entrés dans les écrans radars.
Voilà, ils sont intégrés à notre vision de comment on permet aux agris et aux pêcheurs de continuer à vivre de leur travail sur le territoire.
Oui, oui, voilà. Bon, d'où ce côté effort que vous faites continuellement pour la promotion. Et
tout à fait.
Dans l'Aude et à Paris.
Et à Paris.
Et à Paris. Alors, si on comprend très bien l'intérêt que peut avoir, ne serait-ce que l'argent que vous investissez dans ce salon, avec les retombées escomptées, en ce qui concerne, par exemple, la flamme olympique, c'est peut-être moins évident de comprendre pourquoi vous avez investi là-dedans, qu'est-ce que vous en attendez.
Bah, déjà.
Parce que c'est une somme assez importante aussi, je crois.
Oui, mais c'est une, comme je dis, c'est à somme nulle, cette affaire, parce que je n'ai pas fait une dépense supplémentaire. J'ai, dit que pendant 3 ans, nous ne donnerions pas de subvention pour le passage du Tour de France, et que, cet argent que nous ne mettions pas pendant 3 ans au Tour de France, eh bien, nous le mettions à la flamme. Pourquoi? Parce que moi, je considère que la flamme olympique, bon, c'est une évidence de le dire, est un événement international. C'est quelque chose qui, dans un département, une vie arrive une fois, peut-être deux, avec un peu de chance. Mais c'est surtout l'occasion que, ben, tout d'abord, le monde, et quand je dis le monde, je parle bien au niveau international.
Le monde mondial.
Le monde mondial, voilà, parce qu'il faut mettre des nuances. Regarde, eh bien, notre département, mais avec, bon, lors du passage de la flamme, des retombées économiques sur la caravane, les hôtels, etc. Mais c'est pas ça l'essentiel c'est pas ça qui fonde mon choix. Ce qui fonde mon choix, c'est que c'est un événement exceptionnel, c'est un événement qui peut fédérer, c'est un événement qui crée du collectif, c'est un événement qui nous permet d'aller vers les jeunes et les moins jeunes pour fédérer, faire des manifestations, donner un sens et un moment partagé par les Audoises et les Audois. Moi, j'y crois profondément et on voit l'engouement.
Oui, c'est une sorte d'enthousiasme.
Oui,
vous croyez à cet enthousiasme.
Voilà,
là,
je crois à cet enthousiasme, je le vois. On a des collégiens embarqués, on a des villes embarquées, on a des citoyens embarqués. Donc, ça va être un moment, une journée exceptionnelle. Et je pense aussi que dans les temps perturbés que nous vivons, avec beaucoup d'anxiété, eh bien, ça peut nous faire du bien de nous retrouver autour d'un événement qui parle de paix et de concorde.
Mmh. Et alors, pour ceux qui sont toujours intéressés par la finance, donc je le rappelle, en fait, ces 180 000, c'est une économie d'un côté ou un transfert de budget que
c'est
vous
ça.
Avez établi.
On a fait une économie d'un côté.
Sur 3 années. Quoi.
C'est ça.
Voilà. Bon, donc, les amateurs de Tour de France verseront peut-être une larme.
Mais oui, mais ils l'ont tous les ans, le Tour.
Mais, voilà. Mais les autres, ceux qui sont et qui croient en l'esprit olympique, seront ravis.
Surtout que le fait que je ne donne pas de subvention ne suspend pas l'événement. Hein.
Oui,
je
oui.
parle du Tour de France.
Voilà.
Il existe, il va passer, à Cruissant notamment, et donc nous ne sommes privés de rien.
Voilà, mais enfin, il était peut-être utile d'expliquer ce choix et surtout pourquoi vous l'avez fait.
Mmh.
Alors, on va un petit peu changer de sujet, revenir un peu quand même, parce que ça mérite explication. On a parlé de l'aide, alors, du social, de l'aide, disons, à toutes les générations humaines. On a eu à Narbonne, il y a quelques mois à peine, fermeture de crèche qui a pu surprendre certaines personnes. Et on a dit, ben, c'est parce qu'il y a eu des inspections menées par le département qui ont trouvé qu'il y avait des problèmes et il a été nécessaire à un moment de fermer la crèche Babylou. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Ben, ça se passe, comme vous venez de le dire, par une inspection qui nous permet...
C'est la responsabilité du département.
Tout à fait. Mmh. C'est la responsabilité d'un accueil sécurisé pour les enfants qui sont accueillis dans les crèches. Et quand nous constatons à un moment donné que les conditions de sécurité ne sont pas respectées, il va de ma responsabilité de dire, effectivement, que tant que les conditions de sécurité des enfants ne sont pas réunies, la structure ne peut pas fonctionner.
C'est-à-dire que là, le département est un peu le gendarme, quoi, le
oui.
garant de,
tout à fait.
Du respect des règles.
Tout à fait.
Et donc possède des sanctions, notamment
ah ben,
celle-ci.
Oui, c'est-à-dire, vous ne remplissez pas les conditions pour que les enfants qui sont accueillis soient en sécurité. Donc, jusqu'à ce que vous mettiez en conformité, l'établissement sera fermé. J'ai conscience de la nuisance
oui,
que ça crée.
C'est...
Mais dans ma tête...
Mais il faut choisir entre...
Dans ma tête, il n'y a pas l'once d'une hésitation. Hein? Quand la vie d'enfant est en danger, je n'hésite pas.
C'était à ce point-là. En tout cas, il y avait de forts doutes.
Ben, vous savez, à ce point-là, à partir du moment où une condition, une, deux, trois, ne sont pas respectées, et bien les risques se potentialisent, et la vie de l'enfant, et sa sécurité de façon générale. Mmh. La vie est un mot assez large, mais sa sécurité. Et moi, je suis garante de cette sécurité. Et jamais je ne pourrais me résoudre à sacrifier cette sécurité.
Mmh, oui, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il incombe au département de surveiller,
oui.
de faire la police, en
nous
quelque
avons
sorte,
des,
et
avons,
de sanctionner.
Nous avons des médecins, nous avons des experts, des professionnels compétents qui sont en capacité de dire si la structure peut continuer ou pas.
Mmh.
Alors nous, mais vous savez, nous avons... Vous évoquez cette affaire, mais les mises en conformité, elles étaient réclamées de façon générale, puisqu'il y a eu des modifications de texte, depuis un an.
Oui, il semblerait...
C'est pas un couperet qui est tombé un matin en disant. C'est pas vrai. Depuis un an, dans toutes les crèches de l'Aude, des demandes de mise en conformité ont été effectuées.
Mmh.
Et la majorité
oui.
s'est mise en conformité... avec les obligations de la loi.
Mmh, voilà. Et évidemment, tant pis pour ceux qui,
ah ben,
qui refusent.
C'est pas faute de ne pas leur avoir demandé.
Qui refusent cette discipline.
C'est pas faute de ne pas leur avoir demandé.
Oui, voilà. Mais voilà. Là aussi, ça méritait une explication, savoir ce qui incombe au département. Et là, c'est parfaitement clair. Et ça, c'est les compétences qu'on appelle obligatoires.
Tout à fait. Et que, effectivement, je ne partage pas avec une autre collectivité... C'est de notre propre responsabilité.
On marque, Hélène Sandrani, une deuxième pause. On va rester évidemment sur le département avec peut-être certains aspects, là encore, qui peuvent parfois surprendre.